Cette exhortation qui a été donnée en Tite, chapitre 2, verset 1er, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Nos idées, nos préférences, la seule utilité, c'est pour nous. Si on doit enseigner, ce n'est pas nos idées, nos préférences. Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Ce que Dieu déclare pour être vrai, c'est la seule chose qui importe. Et il donne un exemple d'une des choses qu'il doit enseigner, qui est conforme aux saines doctrines. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience, en parlant autour de ce thème de la maîtrise de soi. Quelques versets plus loin, il dit « Exhorte de même les jeunes gens », donc ce n'est pas que les personnes âgées, les personnes plus mûres, mais même les jeunes gens, à être modérés. C'est le même mot qu'on peut utiliser par rapport à la maîtrise de soi, etc., la tempérance. Te montrant toi-même, à tous égards, un modèle de bonnes œuvres. Ne l'enseigne pas pour dire « Fais comme je dis, pas comme je fais ». Et en donnant un enseignement qui est pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal de dire de nous. Et on sait que l'adversaire cherche des choses à dire de nous. Il aime, dès qu'il voit la moindre faille, dès qu'il voit la moindre chose, le mauvais sentiment, la mauvaise action, le mauvais état, il va l'utiliser, aussi bien pour culpabiliser que pour dire, montrer aux autres, ah, t'as vu ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, etc. Puis, tu enseignes les enseignements qui sont conformes aux Écritures, tu le mets en pratique toi-même, il n'aura rien à dire. Ce que tu enseignes, c'est la vérité, tu es en train de vivre la vérité. C'est la façon la plus simple à ce que l'adversaire ne puisse pas nous toucher, pour ainsi dire. Mais après, on avait suivi cela en disant, mais surtout quand on parle de maîtrise de soi, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut avoir cette maîtrise de soi tout le temps ? Dans sa vie, en toute chose, pour chaque chose et à chaque instant. Et on dit, c'est justement, hein, la maîtrise de soi n'est que le dernier caractéristique du fruit de l'esprit, des neuf qu'on voit, et ce sont les neuf qu'on doit faire tout le temps. Et là, encore plus, on se dit, mais comment est-ce que c'est possible? Et c'est ce qu'on va commencer un peu à voir, comment justement. Dieu veut nous aider à en arriver au point où nous sommes obéissants à ce qu'il nous demande de faire. On vient de lire les deux passages, aussi bien pour les âgés que les plus jeunes. Vous devez être sobre, vous devez être modéré, vous devez avoir cette maîtrise de soi, vous devez enseigner, vous devez également le mettre en pratique, sans exception, et pas faites de votre mieux la plupart du temps comme vous pouvez, mais l'enseignement est donné comme à chaque fois, c'est ce que vous devez être. Et s'il y a des exceptions, ben pendant ces exceptions, vous avez tort. Vous devez être comme ça. Donc, Dieu voulant, on verra ce qu'on appelle le processus, des étapes plus établies sur notre rôle dans notre soumission au Saint-Esprit pour que lui puisse avoir ce contrôle. Parce que quand on dit d'être contrôlé, rempli du Saint-Esprit ou d'être contrôlé par le Saint-Esprit, il ne faut pas faire dire ce que la Bible ne dit pas. D'être contrôlé par le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que il est en train de me forcer de faire quelque chose que je n'ai pas envie. C'est pas ça. C'est rempli, contrôlé, c'est soumis. C'est-à-dire, il va me rappeler ce que je dois faire. Il ne va pas me laisser aller dans une direction que je ne dois pas. Mais il ne va pas me forcer à dévier non plus. Mais il va me rappeler. Et moi, j'ai certaines responsabilités par rapport à ces rappels qu'il me donne. Donc, personnellement, là je dis, c'est personnellement, c'est pas enseignement de la Bible qui le dit, j'ai pas de verset qui puisse l'appuyer, mais je pense ne pas être en train d'exagérer en disant que la chose la plus importante dans la vie d'un chrétien, peu importe le chrétien, est celui d'être rempli du Saint-Esprit selon cette définition qu'on vient de donner. Et Christ a dit à ses disciples en Jean chapitre 15 verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On pourrait voir tout le contexte et on va en parler un tout petit peu. Mais rien que Christ faisant ce contexte à ses disciples, sans moi vous ne pouvez rien faire. La première chose que nous on fait quand on voit une déclaration aussi directe que celui-là, c'est de penser peut-être que non, il y a des exceptions. Non, je suis désolé, mais quand Christ me dit que sans lui je ne peux rien faire, moi je me mets de côté, je dis, d'accord, j'accepte. Sans toi, je ne peux rien faire. Mais parce qu'on sait qu'on ne doit pas prendre cela littéralement, dans le sens que on peut faire certaines choses, parce que même l'inconverti peut faire certaines choses qui ont l'air bien aux yeux des chrétiens et des inconvertis. Ils font des actes que l'humanité considère des actes de bonté, n'est-ce pas ? On ne va pas dire que c'est... Ils le font avec Christ, ils ne sont même pas sauvés. Et ils n'ont même certainement pas, encore moins, le Saint-Esprit en eux pour les aider à faire ces bonnes choses. Mais Christ parle bien plus que des actes que nous faisons, parce qu'il ne se limite pas seulement aux motivations de nos actes. Le contexte de Jean chapitre 15 nous parle du cep et des serments. Et même ce contexte lui-même, entre autres, il y a plusieurs enseignements, mais y compris l'enseignement de porter du fruit, c'est directement lié. Alors, l'inconverti ou le chrétien charnel ne peut pas, il est impossible de faire des bonnes œuvres qui, elles, porteront du fruit pour son bien éternel ou spirituel. Ce ne sera que des bonnes œuvres, c'est pour ça que je les mets entre guillemets, ce ne seront que des bonnes œuvres bonnes aux yeux de l'homme et non aux yeux de Dieu. Et on doit être attaché au cep pour pouvoir apporter du fruit qui, elle, ou lui, pardon, sera acceptable à Dieu. Seulement le chrétien qui, par le salut, attaché à Christ, portera le fruit que Christ lui donne la force de pouvoir apporter. Ce n'est plus maintenant la branche qui, par ses propres moyens, apporte son fruit. Il apporte du fruit grâce au fait qu'il est attaché directement au cep, directement à Christ. Et pour que Dieu voit que nos œuvres soient acceptables, on est obligé d'être attaché à Christ. Si c'est que nos œuvres, ce sont des fruits, mais pas des fruits qui seront acceptés par Dieu, parce que ce sont des fruits qui sont sans son Fils, sans être attaché à Christ. Ce sont des fruits basés sur notre force personnelle et non des fruits qui vont porter gloire à Christ. Elles porteront gloire à nous. Alors comment est-ce que ce fruit-là sera acceptable par Dieu ? Nous savons que Christ réside dans la vie du croyant, dans la personne du Saint-Esprit. De la même manière que Christ pouvait dire que lui et le Père sont un, qu'il a dit également que si vous avez vu Christ, vous avez également vu le Père, il aurait pu dire la même chose entre lui et le Saint-Esprit. Parce que les trois sont égaux, et le Père ou Christ n'est pas plus Dieu que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas moins Dieu que Père ou Christ. Il va de soi que si nous sommes remplis, contrôlés par Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, que nous serons automatiquement productifs et que si nous choisissons de ne pas être remplis du Saint-Esprit, on va être improductif. On ne sera pas capable de produire du fruit qui soit acceptable, du fruit spirituel qui soit acceptable devant Dieu. Ce sont des fruits charnels que le monde peut produire, mais qui vont n'apporter rien sur le plan spirituel. Il est presque impossible d'exagérer à quel point le chrétien est dépendant du Saint-Esprit pour vivre sa vie chrétienne de façon victorieuse, de façon, si vous préférez, productive, de manière à ce qu'il puisse produire du fruit qui soit acceptable à Dieu. S'il essaye de, malgré le fait qu'il a le Saint-Esprit, beaucoup de chrétiens le font. Oui, ils sont sauvés, ils ont le Saint-Esprit, mais ils vont essayer de produire beaucoup de fruits sans lui, de par leur propre force. Et ce sont généralement ces mêmes chrétiens qui, par la suite, se découragent. Parce qu'ils retombent dans les mêmes travers. Parce qu'ils avaient à leurs yeux un certain succès pendant un moment, puis j'y arrive plus. C'est le marathon, au bout de 100 mètres sprint, ils n'y arrivent plus. Et il reste encore 19 km 900 à faire. Mais, ou sinon, ils dépendent du Saint-Esprit pour certaines choses, mais pas pour tous leurs fruits. Parce que, Il faut réaliser que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de notre péché, n'est-ce pas, avant de venir au salut. Ce n'est pas seulement notre raisonnement, notre compréhension. L'inconverti ne le réalise peut-être pas au moment de son salut, mais c'est le Saint-Esprit qui a travaillé son cœur. C'est le Saint-Esprit qui lui a révélé certaines choses. Et c'est le Saint-Esprit qui lui a dit « Tu es pécheur ». Parce que croyez-moi, ce n'est pas notre nature pécheresse qui nous a dit « Ah, t'es pécheur, il faut que tu te confesses ». C'est le Saint-Esprit qui a déjà fait son œuvre de travail pour expliquer, montrer, rien que pour convaincre de son péché. Et c'est le Saint-Esprit qui continue après notre salut, qui est maintenant en nous, qui nous rappelle à chaque fois qu'on pêche, ce sentiment qu'on dit, de se sentir mal à l'aise. Ben, ce n'est pas juste un sentiment. C'est le Saint-Esprit qui travaille, qui te met mal à l'aise. Parce que lui, il est mal à l'aise. Parce que nous sommes le temple et on l'a sali par notre péché. Il dit, enlève ce péché de mon temple. Et c'est lui qui continue à nous convaincre. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Oui, on a notre intelligence, on a notre connaissance. Mais si on pense pouvoir comprendre des vérités spirituelles sans l'aide du Saint-Esprit, c'est qu'on n'a encore rien compris. Parce que connaissance, compréhension intellectuelle n'implique pas obéissance et soumission et reconnaissance envers la personne qui apporte ses enseignements. C'est pour ça que beaucoup d'inconvertis peuvent étudier la Bible, ils peuvent avoir une connaissance de la Bible, mais ils ne sont pas enseignés. Parce qu'ils ne laissent pas cette connaissance changer leur façon de vivre. C'est également le Saint-Esprit qui nous enseigne, mais qui nous donne la puissance pour témoigner ou pour résister contre le péché. Quand j'ai peur de partager ma foi avec quelqu'un d'autre, ben ce n'est pas « Allez, prends ton courage demain, il faut que tu... » Non, il faut que j'aille en prière, dis « Seigneur, j'ai besoin de force. » Et le Saint-Esprit renouvelle ce courage en moi. Il m'aide à me dire « Vas-y, je serai là, je vais te dire ce qu'il faut dire, t'inquiète pas. » Ou pour résister contre le péché, quand on a toutes ces tentations diverses qui sont en face de nous, on a envie de répondre d'une manière un peu trop dure, ou on a envie de, je ne sais pas quoi, peu importe le péché, si je pense que je vais pouvoir résister parce que moi je suis assez fort, ben on pourra peut-être résister encore une fois pour un temps très court. Mais pas sur la durée. Ce péché aura toujours une emprise sur nous. C'est vraiment le Saint-Esprit qui pas seulement nous aide à ne pas tomber dans cette tentation, mais qui nous aide à avoir la victoire sur ce péché. Je suis dépendant du Saint-Esprit pour toutes ces choses, pour son enseignement, pour qu'il me rappelle à chaque fois que je ne sois pas insensible quand je pêche, pour que je puisse dire non au péché. Et puis on pourrait continuer, n'est-ce pas le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous conseille, qui nous réconforte? Ça fait même partie de l'un de ses titres, hein, le grand consolateur. Et nous aide dans notre vie de prière. Quand on est là et qu'on pleure et qu'on n'arrive même pas à parler correctement et qu'il traduit nos balbutiements dans des prières audibles devant Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes ces choses. Ne voyez-vous pas qu'on est vraiment dépendant du Saint-Esprit? En tout et pour tout, pas juste quand moi je n'y arrive plus. Alors vu combien ceci est un point pas seulement important mais vraiment primordial dans la vie du chrétien, et ça aussi bien pour Pasteur Dollaire, moi-même, que pour nos plus jeunes, peu importe, à partir du moment que nous sommes sauvés, nous avons la même dépendance, le même niveau de dépendance du Saint-Esprit. C'est juste que ceux qui sont sauvés, comme Pasteur Dollaire ou moi-même, je ne sais pas à quel âge j'ai oublié, mais à mon avis, ça doit être similaire. On a plus de 40 ans de salut dans le Seigneur. Que oui, on a appris pas mal de choses par rapport à notre dépendance du Saint-Esprit entre-temps. Et les plus jeunes qui sont en train d'apprendre ces mêmes choses. Et même malgré nos 40 et plus années de dépendance, on est en train d'apprendre qu'on a encore beaucoup à apprendre sur notre dépendance du Saint-Esprit. Et je ne devrais pas être surpris quand on voit que c'est un besoin si essentiel dans la vie du chrétien. Le travail du Saint-Esprit dans ma vie, ce n'est plus autant étonnant de voir qu'il y a tellement d'idées fausses à travers le monde sur la personne du Saint-Esprit et sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des croyants. C'est pour et beaucoup de confusion et d'incompréhension. Sinon, nous n'aurions pas des personnes qui sont réellement ou qui soient réellement converties, qui ont donc le Saint-Esprit en eux, mais qui croient également au don du parler en langue, ou qui croient dans des expériences d'extase sentimentale, en appelant ces expériences la preuve d'être rempli de l'Esprit. Nous savons que Satan s'efforce depuis le début de la création de tout faire pour que l'homme ne soit pas en règle avec Dieu, n'est-ce pas? Et je crois qu'on peut dire que s'il s'efforce ou met la priorité sur ses efforts dans au moins deux domaines précis, il fait tout ce qu'il peut pour empêcher le plus grand nombre possible de recevoir Christ comme sauveur. Je suis persuadé que ça c'est l'un de ces... Là où Satan s'acharne le plus, il fait tout ce qu'il peut pour empêcher le plus de monde possible à être sauvé. C'est son but primordial. Si il échoue et que certaines personnes, comme vous et moi, avons accepté Christ quand même, il sait qu'il ne peut plus rien, qu'il ne peut pas changer cela, il ne peut pas nous l'enlever. Alors il va s'acharner à son deuxième passe-temps favori et faire tout ce qu'il peut pour empêcher le chrétien, lui, d'être rempli, contrôlé par le Saint-Esprit, parce qu'il sait que ça va nous rendre automatiquement inefficaces. On ne peut pas être un chrétien qui refuse d'être soumis au Saint-Esprit et être efficace dans notre vie spirituelle en même temps. Et il le sait très bien. D'ici, je peux les empêcher par tous les moyens possibles à ne pas se soumettre au Saint-Esprit, à prendre le travail du Saint-Esprit dans leur vie à la légère. J'ai fait la deuxième chose la plus importante que je puisse faire. Je les rends inutiles ou ils ne pourront pas partager avec force l'évangile avec les autres. L'une des fausses idées reçues des gens chrétiens et inconvertis, c'est que la plénitude et le Saint-Esprit s'accompagnent d'une émotion, d'une expérience spéciale. Alors, c'est pour cela qu'avant d'examiner le comment processus, ce qu'on peut faire nous de notre côté pour être nous remplis de Saint-Esprit, on va également voir ce que j'ai mis en... ce qu'on peut s'attendre hein, quand on est rempli de Saint-Esprit. J'ai pas assez de place, j'ai dit juste les résultats possibles. Et on verra ça la semaine prochaine. Si je veux être rempli quotidiennement, régulièrement, dans tous les domaines, les 9 caractéristiques hein, du fruit de l'Esprit dans ma vie, comment est-ce que je peux savoir que ça commence à être fait en fait? Quels sont les résultats vers ce but que je dois vouloir atteindre, que je peux voir dans ma vie? Et ensuite on verra un processus plus pratique. Mais je m'arrête là parce que 2 minutes, pas trop grave.